À Delphine, jeudi 1er avril 1915. Que tes lettres me sont douces à lire, si débordantes de vraie tendresse, de bon amour, et comme je suis heureux de les savourer, de les lire et de les relire. Je suis avec toi, je vois ta main qui court sur le papier, tes yeux qui suivent les mots, et je suis heureux. Aujourd'hui il fait un temps magnifique, mais il faut que je t'écrive avant toute chose. J'ai plus de plaisir à vivre ainsi en pensée avec toi qu'à courir les routes, fût-ce par les plus beaux soleils. À la même, vendredi 2 avril 1915. Après le déjeuner, la fantaisie nous a pris de profiter du beau soleil pour aller faire un petit tour dans les champs. J'ai eu soin de prendre de quoi écrire, et c'est en plein champ, couché à plat ventre, sur la terre presque sèche, que je t'envoie ce mot. Ah, notre beau printemps de là-bas, ma chérie, t'en souviens-tu, comme nous étions heureux. Maintenant, cela ne saurait plus durer des mois, et certainement le plus gros est fait. Prenons nos mots en patience, ma belle, et attendons. Voici Pâques, il y aura sans doute de nouveau la Pentecôte, et puis peut-être qu'en juillet tout sera fini, car je doute de la justesse des prévisions du brave directeur du Daily Mail dont m'avait parlé Léger. Aujourd'hui est parti pour nous, dans une boîte de cigarettes, la bague de guerre promise. Comme j'ai encore un petit moment avant le départ du cycliste, j'en profite pour venir t'embrasser un gros coup avant la nuit. Il fait beau, et je t'imagine en peignoir dans le jardin, baigné de soleil, devant la porte, en train de semer des salades ou des petits choux. Château m'a écrit, il a réussi à m'envoyer des cartouches de revolver, et la bonne Madame Château y a joint du chocolat et un petit flacon de rhum. Madame Laval m'a envoyé une paire de chaussettes. Ce bon Hénic se rappelle à ton bon souvenir et te fait mille et mille amitiés. Puis aussi m'a écrié, me revoilà, avec des tombereaux de réponses à faire. Mais cela peut attendre, il n'y a que ma bien-aimée que je ne fais pas attendre. À Edmond Rocher, samedi 3 avril 1915. Enfin, nous revoyons le soleil. Nos tranchées sont un peu moins boueuses, quelques pâquerettes apparaissent dans le gris uniforme de la terre, et les alouettes chantées perdument se foutent des 77 et des 150 autant que du premier duvet qui leur ombragea le croupion. Par de tels matins, on se sent renaître. On ne fait guère attention aux obus, et n'étaient les cadavres des nôtres qui jalonnent le trajet entre nos tranchées et celles des Boches, prises et reperdues, on ne croirait pas, on ne penserait pas que c'est la guerre. À Delphine, samedi 3 avril 1915. Ici, rien de nouveau, du moins à notre sujet, car il se pourrait que cela chauffe encore. Mais ce ne serait vraisemblablement pas notre régiment qui se trouverait en première ligne. Ne t'effraie donc pas si tu vois dans les communiqués officiels que ça a bardé un peu, et ne t'effraie pas davantage si les communications sont un peu ralenties. La poste aura beaucoup, beaucoup à faire. Peut-être enfin reverrons-nous les champs reverdir et les fleurs pousser. Déjà quelques marguerites apparaissent dans le gris des herbes sèches, et l'autre jour, à R, malgré les pluies de marmite, j'ai vu pousser des violettes. Il est vrai que je les ai laissées là-bas, car dans ce malheureux pays, il n'est pas un coin qui ne soit 20 fois par jour compissé ou même davantage par les poilus qui s'y terrent. À la même, dimanche 4 avril. Il s'est mis à pleuvoir et les routes sont infectes, mais il ne fait pas froid et c'est déjà beaucoup. Contrairement à ce que je te disais hier, nous ne repartirons pas ce soir aux tranchées. Nous sommes probablement remplacés dans notre secteur par d'autres troupes, mais nous ne savons pas encore où l'on nous emmènera. Il est probable que nous resterons dans les alentours pour soutenir, le cas échéant, les troupes d'attaque ou de défense. On ne sait plus. C'est aujourd'hui Pâques et nous avons fêté la résurrection de Jésus en vrai chrétien, c'est-à-dire en mangeant bien et en buvant sec. En ma qualité de popotier, j'avais préparé un petit menu très soigné qui a été fort apprécié de tous. À la même, lundi 5 avril 1915. Hier, nous ne sommes pas partis aux tranchées et nous sommes revenus à 3 kilomètres en arrière, dans un cantonnement où la quantité considérable de troupes concentrées nous réduit la place à sa plus simple expression. Nous avons fait la route hier soir, à la nuit, par une route détrempée et encombrée de chariots, de canons et de matériel de toutes sortes. À chaque instant, nous étions arrêtés et obligés de stationner sous la pluie fine et douce, mais persistante et tenace, qui finissait par nous transpercer. Cette nuit, nous avons dû coucher à deux sur des paillasses, mais j'ai bien dormi tout de même car j'étais un peu fatigué. Ce matin, nous avons dû errer par tout le cantonnement et expulser de notre secteur les autres régiments qui nous avaient envahis. Les rues du village ne sont que boue et eau. Ce soir, je crois que nous irons aux environs des tranchées, mais pas pour y prendre la garde, pour y faire des corvées. Depuis hier, nous ne sommes plus en première ligne et nos chances d'écoper sont de beaucoup réduites. J'ai reçu hier soir ta petite carte et le premier numéro du Mercure qui reparaît. Hier soir, j'ai quitté la bonne Madame Laguerre qui m'a dit de bien te faire des amitiés. C'est une excellente vieille qui continue malgré tout à me laver mon linge et à me faire envoyer. À la même, mardi 6 avril 1915. Nous n'avons pas bougé hier. Ce sont les régiments arrivés qui ont donné le gros effort en avant de nous et au nord. Rassure-toi donc si tu vois dans les communiqués que ça a chauffé dur par ici. D'ailleurs, je crois qu'on fait de bonnes et profitables besognes. Hier, toute la journée, ça a été la chasse au cantonnement. Il a fallu expulser de leur domicile, ou plutôt du domicile qui nous était échu, des troupiers et des officiers d'autres régiments qui s'y étaient installés, et cela ne s'est pas fait par endroits sans quelques tirages. Dans l'après-midi, on a vu quelques autres officiers. Je suis monté sur les collines qui dominent le pays pour assister à la canonnade toute proche. C'est un spectacle qui valait la peine d'être vu. Après avoir été acteur dans le drame, on peut se payer le luxe d'être spectateur. Cela offrait quelque chose de terrible et de grandiose, cette ceinture de fumée à l'horizon et de trains allemands au loin filant à toute vitesse pour amener sur un point attaqué, du moins je le suppose, des renforts. Le soir, une partie de notre bataillon partait en corvée sur le front pour établir des tranchées d'approche, et d'autres, à 2 heures, filaient seconder en réserve les troupes d'attaque. Pendant ce temps, sur ma paillasse, enveloppée dans mon sac de couchage et ma couverture, je reposais du sommeil du juste. Reposer, c'est façon de dire, car à toute heure j'étais réveillé. Départ des uns, arrivée des autres, passage de troupes, de convois, d'automitrailleuses et d'autocanons, tout un joli matériel, solide et neuf, roulant bien et ayant bonne mine. Et puis, le jour est revenu, d'autres régiments arrivaient encore, nous restons tous dans une seule maison. C'est à la fois ennuyeux et gai. Et après la pluie, le soleil se remontre un peu. S'il pouvait faire beau temps seulement, dans ces sacrés marais où dès qu'il pleut on a de la boue jusqu'aux jarrets, il est difficile de manœuvrer. Enfin, ça va, ça ira. Tout le monde a confiance et bon espoir. Ce matin, comme j'allais voir au bureau s'il y avait des ordres, j'ai trouvé des sous-officiers en train de se faire photographier. Ils m'ont invité à prendre place parmi eux et j'aurai peut-être dans quelques jours une nouvelle photo à envoyer à mon petit cri-cri. Je suis au centre où tu me reconnaîtras, je l'espère, entre Houdin, le barbu, coiffé d'un bonnet de police, et l'adjudant de la compagnie, le nouveau Maillet, un bien gentil garçon aussi. Rafton m'a photographié également il y a une quinzaine, mais il envoie ses clichés à Paris pour les faire développer, et je ne sais pas quand je verrai les épreuves. Dès qu'il me les aura données, je te les enverrai. Comme ça, tu auras de moi plusieurs photos fidèles qui ne seront pas retouchées. À la même, mercredi 7 avril 1915. J'ai reçu hier de toi une bien bonne lettre, toute imprégnée d'amour, toute débordante de tendresse. Merci, mon bon petit, de m'écrire si longuement et de me dire des choses si douces au cœur, si réconfortantes. Je te conterai plus tard des histoires émouvantes et terribles, et de gaies aussi. En attendant, il faut s'armer de patience et de courage. Nous n'avons pas bougé hier encore, j'ai passé une très bonne nuit dans un bois de lit rempli de paille avec mon sac de couchage, une couverture et un oreiller. Il a plu toute la nuit, mais aujourd'hui il n'est encore rien tombé. Le canon gronde encore à côté de nous et la fusillade crépite. Les Boches ont essayé vainement de nous canarder, mais leurs obus à bout de souffle venaient péniblement renifler dans la terre à 50 mètres du village. Ce qu'ils devaient rager! À demain, ma chérie, je te prends dans mes bras et je t'embrasse de toute mon âme, de toutes mes forces et de tout mon cœur. Cette lettre est la dernière qu'ait écrite Louis Pergaud. Son carnet de guerre finit au 6 avril sur ces mots. Des bruits nouveaux circulent, Marcheville serait repris et nous aurions également avancé du côté de Combres, mais rien n'est confirmé. Dans la nuit du 7 au 8 avril 1915, il prit part à une attaque tragique où il disparut.